On en jase et on en jase avec vous également. On apprécie énormément des réactions à chaque fois qu'on parle par texto 418-971-1021. Et là, Pascal, écoute bien, on vient d'annoncer que tu vas nous faire un dossier sur l'isolation sociale des étudiants avec les cours en ligne qui sont de plus en plus majoritaires. Oui, exactement. Et là, il y a Jean-François qui nous écrit « En quoi c'est la responsabilité de l'université de gérer les interactions sociales des étudiants, qu'ils prennent les choses en main eux-mêmes? Dans mes années universitaires, je prenais le plus de cours à distance possible pour pouvoir me remettre de mes soirées sociales à mon rythme. Ah, ah, ah. Bon, ben, coudonc, Jeff, on était les... pareil, moi, il n'y avait pas de cours en ligne dans mon temps, mais on était pareil, on a eu des belles soirées arrosées là, à l'université. Alors, c'est clair que Pascal va nous expliquer ceci avec l'excellent dossier qu'elle va avoir monté. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter également au blvd.fm sur la web radio, application BLVD 101 sur App Store, Google Play Store. On est disponible sur twitch.tv/BLVD/FM. Il est présentement 12h40. Pascal, donne-nous l'essentiel de l'actualité avant de nous faire réagir avec ces étudiants qui souffrent présentement d'être isolés socialement avec des cours en ligne.
Je commence avec la collision à Limoilou. Il y a deux personnes qui ont été transportées à l'hôpital. Ce serait un malaise, en fait, qui serait possiblement l'origine de cette collision-là. C'est trois véhicules qui ont fait deux blessés ce matin. C'était dans l'arrondissement de Limoilou autour de 9h15. Bon, l'événement a débuté parce qu'il y a un automobiliste de 83 ans qui circulait en direction est sur la 41e rue Est. Et premier impact avec une chaîne de trottoir tout juste après l'intersection de la 2e avenue. On a poursuivi la route et l'octogénaire a terminé sa course sur un autre véhicule qui se trouvait en sens inverse près de la 4e avenue. Donc, ça a été un accident assez spectaculaire. À 83 ans, l'homme était semi-conscient à l'arrivée des secours. Il a été transporté à l'hôpital. Idem pour la femme de 77 ans qui se trouvait dans la seconde voiture qui a été impliquée dans l'événement. Mais c'est des blessures importantes aux jambes que cette femme-là a eues. Heureusement, leur vie n'est pas menacée, mais on veut comprendre ce qui s'est passé et actuellement, il y a plein d'hypothèses, mais le malaise est la priorité dans l'enquête actuelle. La route a été fermée à la circulation pendant un bon bout et c'est rouvert maintenant dans le secteur. Agression armée à Québec, il y a un proche de Dave Picturmel qui a été arrêté de nouveau. On dit que c'est deux hommes qui sont liés au Blood Family Mafia qui ont été arrêtés pour avoir violemment agressé à l'arme blanche un autre individu. Ça s'est fait dans un bar de Québec il y a deux semaines. Donc, okay. Au 21 août dernier, les policiers sont appelés dans un établissement qui est licencié sur la rue de la Fonde dans le secteur de Charlebourg.
Ah,
et là,
je pense, en tête, j'ai l'établissement, justement, rue de la Fonde.
Et il y a deux suspects, 28-39 ans, qui auraient agressé un autre homme avec un objet tranchant, d'où le pourquoi on parle d'arme blanche. Puis la victime a été grièvement blessée. Sa vie n'est pas menacée. Sauf que ça a mené finalement à cette enquête-là qui a fait en sorte que mercredi soir, on a arrêté dans le secteur de Charlebourg et de Saint-Émile. Les deux suspects, on reproche entre autres l'agression dont je vous parle, voie de fait aussi causant des lésions et une entrave au travail des policiers. Puis ça menait une perquisition. Alors, puisqu'on est allé arrêter dans les lieux, on a constaté des choses et il y a eu perquisition dans deux secteurs qui a permis de saisir des éléments qui sont reliés à l'agression. Il faut dire que les deux individus sont bien connus du milieu policier. Il y en a un qui fait partie du gang de Dave Picturmel, celui dont je vous parlais, le Blood Family Mafia. Et selon les informations du Journal de Québec, le suspect de 28 ans serait même un des hommes de confiance du caïd, là, donc de Dave Picturmel. Et il venait de sortir de prison. Donc, il n'avait pas compris que la suite des choses était encore assez importante pour qu'on puisse le ficher et faire en sorte de le ramener derrière les barreaux si nécessaire. Le procès confirme.
Ça nous ramène à notre dossier de cet été lorsqu'il y avait eu ce fameux meurtre au pénitencier de Donnacona, un des hauts placés d'Arab Power, où on disait « Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie de les mettre dans la même aile de pénitencier ou de prison? » Parce qu'ils peuvent continuer justement leur activité criminelle. Quand je vois des choses comme ça, que la personne vient de sortir de prison, se fait arrêter à nouveau pour agression armée, je me dis qu'elle avait continué ses activités à l'intérieur des murs de la prison. En tout cas, qu'il y avait de fortes chances. T'en penses quoi?
Puis moi, ça m'amène en fait à l'aspect psychologique de ça, à quel point quand t'as un pied là-dedans, c'est dur de le sortir du tordeur, sinon tu te le fais fractionner. Continuer dans les murs du pénitencier, c'est un problème crucial et on en jase souvent avec les agents en incarcération puis qui trouvent ça de plus en plus compliqué faire leur job. Entre autres, justement parce que la violence violence est exacerbée, il manque de contrôle, c'est plus la même manière qu'on peut réagir, qu'on peut intervenir avec les prisonniers. C'est pas des enfants de cœur, là. Tu leur demandes d'aller dans le coin 5 minutes, là, tu vas te faire regarder comme si t'étais l'aguerré premier. Puis c'est ce qui se passe en ce moment, une genre de demande de revenir à, malheureusement, des comportements peut-être un petit peu plus agressifs, un peu plus dans le contrôle coercitif au niveau des intervenants en prison, parce que ça fonctionne pas. Mais au-delà de ça, moi, c'est vraiment le pied dans le tordeur qui m'inquiète là-dedans, parce que je me dis, est-ce que ces individus-là, comme on voyait des Hells Angels dans le temps, un genre de Serge Quesnel qui est revenu dans l'actualité récemment, c'est un jeune homme qui a été pris à bas âge, au début de son adolescence, par les Hells Angels. Il a été amené à commettre des meurtres. Il avait connu rien de différent. Il avait besoin d'argent. Et sort de prison après avoir été délateur, avoir changé d'apparence, avoir eu 400 000 $ de la part du gouvernement pour être délateur. C'est la somme la plus haute qui avait jamais été donnée. Et puis, il retourne un peu dans des comportements difficiles. Il a été, entre autres, réarrêté récemment parce que, il avait pris cannabis, amené à un genre de psychose. Il a résisté à son arrestation. Tu sais, il y a quelque chose de fondamentalement brisé, des fois, chez certains individus, puis ils ne voient pas la possibilité de s'en sortir parce que là, après, tu deviens une cible de ton propre gang. C'est ça qui se passe. C'est beaucoup de questionnements qu'on peut avoir là-dedans. Mais je rappelle que Dave Picturmel, un homme de la région aussi de Québec, c'est le chef du BFM. Il a été arrêté en Italie après une cavale de 110 jours. Et aux dernières nouvelles, il est toujours en Italie. On n'est pas pressé, on dirait, de le renvoyer au Québec là, pour faire face à la justice.
Pas du tout. Ça ne nous tente pas qu'il gère ses activités criminelles de nos prisons au Québec. Un ex-détenu m'avait déjà raconté. Il disait, écoute, moi, j'ai fait mes thérapies en dedans. J'ai décidé de lâcher les gangs criminalisés. Je voulais refaire ma vie. Ils ont été jusqu'à trouver mon nouveau numéro de cellulaire pour me harceler, pour que je revienne avec eux. Alors, c'est vraiment pas facile pour les gens qui veulent s'en sortir une fois qu'on a le pied dans l'engrenage. T'as entièrement raison. Deux petites dernières nouvelles avant ton excellent dossier.
Guy Rocher va avoir droit à des funérailles nationales. Hein. C'est le pilier de la Révolution tranquille. Ouais. Il est décédé. Ça fait l'actualité depuis quelques heures. À l'âge de 101 ans. Un des plus grands intellectuels et artisans de la Révolution tranquille, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement du Québec dans les dernières heures. Voilà pourquoi on offre des funérailles nationales pour le sociologue Guy Rocher. Donc, registre de condoléances qui sera aussi mis en ligne à compter du 5 septembre. Les écrits, sa pensée, son engagement ont été soulignés par François Legault, premier ministre du Québec, dans une déclaration écrite. Et c'est un professeur passionné qui a participé aussi à la réforme de l'éducation. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était très, très engagé. Au niveau gouvernemental, on décide de donner ces funérailles-là nationales à Guy Rocher. Et je vais parler de la ministre André Laforêt qui a annoncé sa démission comme ministre et députée aussi pour se lancer dans la course à la mairie de Saguenay. Donc, André Laforêt quitte ses fonctions et elle va décider de dire merci beaucoup à la CAQ pour ensuite dire bonjour, bonjour au Saguenay. Puis elle avait convoqué les journalistes ce matin pour faire le point sur son avenir politique.
Ça sera une course très intéressante à Ville de Saguenay entre l'ancienne ministre des Affaires municipal André Laforêt, l'homme d'affaires et propriétaire de Fromagerie Boivin, Luc Boivin, ainsi que la mairesse sortante Julie Dufour, qui a été reconnue coupable d'avoir tenté de truquer la dernière élection municipale auquel elle a été élue en offrant des postes à ses adversaires politiques. Donc, ça va être très polarisant là-bas aussi comme campagne électorale. On le sait, ici à Québec, ça l'est tout autant. Et d'ailleurs, hier, bien, Sam Hamad et son équipe avec ses nouveaux candidats se sont fait arroser par des jeux d'eau lors de leur point de presse. C'était pas positionné à la bonne place, Leadership Québec, malheureusement pour eux. Pascal, je le disais, c'était à la une du site web du Journal de Québec ce matin. On parlait avec une étudiante qu'on a prénommée Sandra, qui nous parlait vive des difficultés sociales en raison que plus de la moitié de ses cours à l'Université Laval sont donnés à distance. Tu as parlé avec les gens de la CADEL à cet effet-là.
Il y a trois choses qui m'ont frappé, en fait, dans cette conversation-là avec Coralie Duchesneau, qui est présidente de la Confédération des associations étudiantes, donc présidente de la CADEL. Ce matin, on s'entretenait et je vais vous dire que vie sociale, argent et motivation, c'est les trois points importants de notre conversation. Parce que les cours à distance à l'Université Laval, tout dépendant de ton cursus, toi, de ton occupation, ta vie, t'es-tu à l'école à temps plein, à temps partiel, as-tu des enfants, travailles-tu? Ça peut être extraordinaire, hein, ces cours-là
bien
où
sûr.
Tu peux passer à travers ton éducation. Peu importe où tu te trouves. L'affaire, ce qui est arrivé dans l'actualité en ce moment, c'est qu'on dit que depuis la pandémie, on est resté un peu avec la base de se dire « Ah, On a offert plus de cours à distance. Continuons dans cette branche-là. Offrons encore plus de cours sur cette plateforme web-là. Mais ça a causé des préoccupations parce qu'il y a un genre de déconnexion avec la vie étudiante habituelle, normale, celle que vous connaissez. On peut écouter Coralie Duchesneau.
Quand même une inquiétude là, de la part de la communauté étudiante. La raison est que le fait que il y a plusieurs cours là, qui soient obligatoires en ligne, ça encourage l'isolement. C'est sûr que ça favorise pas non plus là, le sentiment d'appartenance sur le campus, parce qu'on le sait, c'est l'université, c'est tout le volet académique, les cours, les projets, mais c'est aussi toute la vie universitaire là, qui crée l'expérience, qui crée le lien d'appartenance, qui crée la cohésion là, entre les personnes étudiantes là, dans les différents cours.
C'est le volet obligatoire, moi, qui me perturbe. Maintenant, avec la technologie, je pense qu'on pourrait offrir tous les cours en ligne, mais on devrait offrir la possibilité aux gens d'aller dans une salle de classe parce que obligé d'être en cours en ligne, c'est pas donné à tout le monde non plus au niveau éducation d'être en mesure de bien saisir la matière en ligne. Je me trompe-tu?
Bien, c'est parce que là, il faudrait revoir le système au complet. Est-ce que ce serait des caméras qui seraient continuellement dans les classes et qui permettraient d'avoir le cours à distance? Il y a aussi toute la formule. Moi, je l'ai fait. Tu as trois façons de faire des cours à distance. T'en as qui sont juste en présentiel. T'en as qui c'est entre les deux. C'est un peu hybride, locomodal qu'on appelle. Donc, tu vas avoir certains cours obligatoires sur place et des examens aussi surveillés sur place. Puis le troisième, c'est complètement à distance. C'est très dépersonnalisé.
Qu'est-ce que t'aimais mieux, toi?
Moi, c'est sûr que le présentiel, je l'ai préféré pour apprendre réellement mes cours parce que tu suis un enseignant qui habituellement a un dynamisme, a une présence, pose des questions, c'est très actif, mais vous le savez, j'ai jamais arrêté d'étudier, mis à part dans la dernière année et demie. Ça fait en sorte que je travaille à temps plein depuis que j'ai 19 ans en radio.
Donc là, à distance, c'est mieux à ce moment-là.
Ça m'a aidé énormément. Puis même, ça m'arrive de prendre des congés des fois pour aller faire un examen parce qu'il est obligatoire en présentiel.
Okay.
Puis quand j'ai déménagé de Montréal à Québec, mais j'avais des présentiels obligatoires pour mes examens à Montréal, à l'Université de Montréal. Fait que, tu sais, ça vient quand même avec des engagements.
C'est spectaculaire pour l'horaire.
Mais j'ai adoré cette disposition-là que j'avais d'avancer mon cursus aussi universitaire. Mm-hmm. Bon, et je pense que ça, c'est ça. Ça dépend de la réalité de tout le monde. Par contre, il y a des revendications intéressantes aussi au niveau de l'argent. C'est des capsules, des fois à distance, dans des cours comme ça, qui sont réutilisées, pas revues, et ça diminue les coûts de l'université, mais c'est pas nécessairement les étudiants qui le retrouvent dans leur poche.
C'était justement une question de notre auditeur qui demandait ceci, et tu as abordé le sujet, j'imagine, avec Mme Duchesneau?
Entre autres sur la démotivation.
Bien, en fait, oui. La réponse, c'est oui à ça. C'est au niveau de la motivation, du lien d'appartenance, de la cohésion, juste là, simplement de en fait l'aisance à pouvoir poser une question là au professeur lors d'un cours, c'est beaucoup plus impersonnel, c'est moins personnalisé. Fait que oui, effectivement, ça a un impact, tu sais, je dirais oui sur la vie universitaire, mais ça a un impact aussi sur le parcours académique de certaines personnes étudiantes qui se voient moins motivées, moins attentives, qui vont utiliser le contrôle S dans certains examens au lieu d'être attentif et attentive là, à 100% lors des cours.
Ça joue énormément là-dessus. Là.
Donc, on a moins d'acquisition de compétences, c'est ce que je comprends en même temps.
Ça dépend comment tu le travailles. Je pense qu'il y a des cursus scolaires que tu n'as pas le choix d'aller mémoriser, d'aller travailler ta mémoire à long terme, à court terme, mais il y a des cursus scolaires un peu plus différents, que c'est pas, mettons, en médecine ou autre, que c'est plus dans l'analyse, l'esprit, mais qui, à l'examen, te demande d'avoir une réponse assez exacte. Bien là, ton contrôle F dans ton document, pour répondre à la question ou faire l'exercice, peut être assez utilisé. Là. Ça veut dire, si ta question est « En quelle année est arrivée telle affaire? »
Contrôle F, telle affaire, bingo.
Puis ça te ramène à l'année. Ouais. Mais là, tu n'as pas lu l'entièreté de ton document puis de ta lecture qui était imposée initialement par l'enseignant.
Est-ce que c'est la majorité des étudiants qui n'aiment pas les cours en ligne ou ça dépend un peu de n'importe qui? Comment on le sent du côté de la CADEL?
Ouais, c'est sûr que ça dépend de comment est-ce que toi, tu as du temps à investir en présentiel dans tes études. On a fait un peu la nomenclature de mon parcours mais je ne suis pas seule là-dedans. Ça dépend vraiment d'où tu viens puis ce dont tu as besoin.
Pour une personne étudiante, ça peut être la meilleure chose d'avoir un programme qui est entièrement en ligne, alors que pour une autre, ça correspond pas du tout à son besoin. Puis parfois, nous, ce qu'on qu'on dénonce, c'est qu'il y a des gens qui, en fait, qui vont s'inscrire dans un programme X, dans l'attente d'être en présentiel sur le campus, de vivre la vie universitaire, puis finalement se retrouvent à une session avec 5 cours, avec 3 cours en ligne, 2 cours en présentiel, alors que ces personnes-là pensaient avoir l'expérience universitaire sur le campus.
Les doutes, la situation est mise dans le Journal de Québec aujourd'hui avec Sarah, qui est un nom fictif, cette étudiante-là. Tu sens-tu que la CADEL est vraiment préoccupée par ça et qu'elle se dit, ouais, si on continue dans ce sens-là, on risque d'aller frapper un mur en termes de compétences sociales et même de santé mentale chez nos étudiants?
Oui, on le sentait. On sentait aussi que le dynamisme qu'on connaît dans la vie universitaire est extrêmement formateur. Hein? Il y en a qui vont dire, hey, moi, sans l'université, j'aurais pas vécu ma vie de jeunesse, je serais pas prêt à être sur le milieu du travail. Ça a formé aussi des personnalités publiques parce que la vie universitaire t'amène aussi à participer peut-être à des regroupements comme la CADEL, à gérer des projets, à avoir ton sport, à socialiser. Puis dans la société actuelle qu'on connaît, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on est beaucoup dans notre tête, dans nos petites affaires. Puis ça devient un petit peu plus complexe au niveau du travail d'équipe aussi, complètement dépersonnalisé. Où souvent, ça se manifeste en disant, voici votre travail, parfait, moi je vais prendre telle portion, toi tu prends telle portion, moi je prends telle portion.
Puis il n'y a pas de cohésion.
Il n'y a pas d'échange, de partage social aussi, de partage de connaissances. Tu restes un peu dans ta bulle de verre à toi. Je comprends, mettons, en jasant avec Coralie Duchesneau, j'ai posé plusieurs questions, puis je comprends des gens qui vont se dire, OK, mais c'est un peu faible, là. Est-ce que vraiment tu vas être isolé de... Mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là à être en interaction.
Du tout.
Puis à apprendre de l'autre hors cursus scolaire.
Bien, je vais prendre l'exemple de Maxime Larouche qui travaille ici dans le matin, le Point de Max. Lui, il fait maintenant partie du groupe des amis, pas d'amis. Pour justement avoir une vie sociale. Et ils se réunissent à chaque mercredi soir. Alors, c'est pas évident, tu sais, on lit par texto, « Ah, on chasse des niaisés pour aller voir du monde. » Mais c'est pas évident, surtout dans une ère où c'est de plus en plus numérique. Il y a de plus en plus de temps qui passe sur écran. Et là, tu sais, je fais appel à tes compétences, justement, en psychologie. C'est des jeunes également, maintenant, qui sont à l'université, qui ont vécu la fin de leur parcours secondaire, début de parcours cégep, l'école à la maison. Fait que c'est très difficile pour eux à l'heure actuelle de se créer ce réseau-là social.
Puis tu sais, moi, je suis pas psychologue. Oui, j'ai fait des études en psychologie, mais c'est la chose par excellence qu'on voit comme étant le dommage sociétal actuellement. Puis même, on fait des comparaisons avec le Japon où les jeunes sortent plus de leur chambre, ils étudient dans leur chambre, socialisent par des réseaux web et tout ça. Vous allez dire, c'est peut-être extrême, mais quand on regarde les tendances sociales, c'est souvent l'Asie qui va nous en amener ici en Occident.
Mm-hmm.
Puis surtout le Japon.
Et quelles sont les tendances sociales là-bas?
Extrêmement complexes. Il y a même un genre de dépersonnalisation familiale, ouais. Les relations aussi amoureuses sont impactées. Je pourrais vous ramener à d'excellents dossiers que Guillaume Piedbeuf de Radio-Canada a fait quand il est allé faire son tour au Japon en tant que journaliste. J'avais parlé dans leur CV il y a un peu plus d'un an. C'est des dossiers super complets, mais ça crée des problèmes aussi pour le travail en équipe. C'est pas vrai que l'intelligence artificielle du jour au lendemain, ça va être la majorité de nos professions qui seront impactées par un ordinateur qui va faire le travail. Et ça amène des conflits extrêmement durable sur le long terme. Fait qu'il y a à ne pas en faire une extrême opinion négative des cours à distance. Ça permet une formation exceptionnelle. Ça permet un enrichissement de connaissances si toi, tu as déjà un gros emploi du temps. Par contre, pensez à vos années universitaires, pensez à vos années au cégep, pensez à votre secondaire.
J'aurais pas pensé du fun que j'ai eu avec mes gangs, ma
peut-être
gang de
que
secondaire,
pas fait
ma
de
gang
sport.
De cégep, ma gang d'université. T'as entièrement raison.
Parce que là,
en tête, là, tu parles, oui. Puis j'ai juste des moments qui me font sourire.
La cafétéria, les corridors d'école.
Le pub.
T'apprends à te connaître. Le pub, c'est niaiseux.
Mais oui, mais non.
Mais ta petite boue, t'as pris une fois de trop.
Je jouais au hockey à l'université avec ma gang, justement, d'université. Je jouais au hockey au volleyball. J'ai dit hockey à l'université. Avec ma gang d'université. Bien, le mardi soir, mercredi soir, c'était au pub. Mm-hmm. Je socialisais avec du monde, j'allais voir du monde.
En plus, c'était dans l'air, pas de cellulaire.
Bien, c'est ça. Après ça, j'en venais dans le cours, genre avec du monde. Hey, oui, ça, c'était compliqué parce que là, j'étais pas souvent chez nous. Mais là, si je voulais ramener une date, il fallait que je marque le numéro de téléphone chez mes parents. Mais j'étais pas souvent là, j'étais toujours rendu partout ailleurs. Ça, c'était tough.
Il y a quelqu'un qui dit même à 50 ans, là, célibataire en télétravail, j'ai pas d'endroit pour sortir. J'en ai peu, je sais pas où rencontrer. Puis c'est le mal du siècle. Il y a le stress qui a été déploré, mais l'isolement, on se dirige à
quelque part d'important. L'isolement fait augmenter l'anxiété, je me trompe pas en disant ça.
Non. Puis je veux dire, chez des gens, ça peut mener à rester dans ta tête, puis à faire tout le temps des loups, puis finalement avoir de la noirceur quand à la base, tu n'étais pas là. Mais tu sais, des gens qui se rappellent même de ce qu'on vendait à la cafétéria.
Les patates à la cafétéria!
Les biscuits des cafétérias et tout ça. Mais souvent, ces connaissances-là que tu fais dans des parties universitaires, ils vont dire hey, « on s'en va-tu à la game de foot en fin de semaine? » C'est des liens sociaux hyper intéressants, formateurs, clairement, à l'aube de la vie adulte.
Pascal, merci beaucoup de nous avoir aiguillés sur cette problématique des étudiants qui sont à distance aujourd'hui, qui ont de la difficulté à créer des liens sociaux. C'est tellement important d'avoir ce filet de sécurité-là social.
Puis gros astérix sur la motivation et la qualité de connaissances et d'apprentissage que tu fais à distance.
Clairement. Il y a Claude André, je termine avec lui, qui dit « Il y a déjà un bout que j'étudiais à l'université. Je peux juste dire que l'énergie, le challenge et les interactions étaient parmi mes stimulants. La formation à distance me rend perplexe sur la qualité globale d'enseignement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Claude André. Avant la pause, je veux juste vous parler que c'est dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 7 septembre, que c'est Saint-Roch XP qui s'empare de la rue Saint-Joseph-Est. Plus de 100 spectacles gratuits d'artistes à découvrir, de la bouffe de rue, une galerie d'art et plus encore. Ça se passe aussi à l'Impérial Belle au Grizzly Fuzz avec Ilepsy, Jay Scott, Fred Fortin, Jérôme 50 et plusieurs autres. Et d'ailleurs, demain, Jérôme 50 vient s'installer en studio à 13h30 pour discuter avec nous de son nouveau spectacle qu'il va offrir au Grizzly Fuzz 22h30 demain soir et qu'il a